Eh bien, nous voulons nous recueillir une fois encore devant notre Seigneur. Ô Dieu, arrivé au terme de ces études que tu nous as permis de faire dans cette belle nature de Cedar Lodge, nos cœurs t'expriment notre reconnaissance infinie. Et nous te demandons que ces derniers moments que nous passons ici soient tout remplis de ta bénédiction et que nous puissions éprouver que notre coupe va déborder et que tu nous prépares encore pour les témoignages de ce soir et que chacun, se sentant libre par ton esprit, puisse dire peut-être une parole, le verset qu'il aura reçu pour lui-même, pour elle-même, durant ses journées, cette parole qui est esprit et vie, et qui est capable de répondre à tous les besoins d'un cœur. Ouvre nos yeux, ce matin encore, pour que nous puissions voir les merveilles qui sont dans ta loi. Révèle ton livre à notre foi. Rends-le vivant, ô Dieu, pour nous. Que nous puissions nous y voir en notre laideur, mais aussi dans ta beauté, toi qui es notre sauveur. Amen. Eh bien, nous sommes arrivés à cette journée célèbre en France, 14 juillet, où l'on célèbre l'anniversaire de la Révolution. Bien, nous demandons à Dieu que ce soit aussi pour nous une vraie révolution intérieure, que nous vivions aujourd'hui pour que nous puissions prendre un nouveau départ dans notre témoignage que nous avons à rendre dans ce monde. Il n'avait pas commencé? Oh, j'ai pas vu qu'il était loin. On peut y aller? Bon, excuse-moi. Alors, ce matin, c'est toujours le même thème. Vous serez mes témoins, acte 1, verset 8. Et nous avons les chapitres 27 et 28, soit 80 versets. 58 dans le chapitre 27 et 28 dans le dernier. Nous faisons cela ce matin parce que plusieurs partent ce soir. Et puis, hier, nous avions interrompu pour donner la place à notre cher ami Noël Aubut. Alors, nous chercherons à couvrir ces deux chapitres ce matin. C'est ainsi que nous aurons terminé la lecture du livre des Actes des Apôtres, qui a été écrit, nous le répétons une dernière fois, par qui ? Par Luc, le médecin bien-aimé, et qui a été adressé à qui? À Théophile, cet homme pour lequel Luc avait déjà écrit son évangile. Et comme nous l'avons souligné, Théophile voulant dire aimé de Dieu, tous ceux qui se savent aimés de Dieu aujourd'hui peuvent lire le livre des Actes comme s'il leur était personnellement adressé. Et j'espère que vous avez fait cette expérience, que vous avez compris que ce livre vous était adressé, mais qu'il vous concernait. Et ce livre nous aura montré comment l'ordre de Jésus ressuscité a été accompli par ses apôtres. Vous serez mes témoins. Alors, ce témoignage devait commencer où? À Jérusalem. Puis il devait se poursuivre dans toute la Judée, dans la Samarie, et aller jusqu'où? Jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce témoignage consistait à prouver
que Jésus qui avait été crucifié, attaché à la croix, comme nous l'avons chanté, avait été ressuscité et qu'il était maintenant à la droite de Dieu, qui lui-même avait accompli sa promesse en envoyant, 10 jours après l'ascension, le Saint-Esprit qu'il avait promis et qui devrait habiter dans le croyant et dans l'Église qu'il allait fonder. Et nous avons vu que cet événement historique qui avait été annoncé par le prophète, quel prophète? Le prophète Joël. J'espère que vous retenez quand même certaines vérités. Hein. Le prophète Joël qui se trouve dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Dans l'Ancien. Hein. Eh bien, le jour de la Pentecôte, cette prophétie du prophète Joël a eu un accomplissement partiel, pas total, puisqu'il n'y a pas eu tous ces signes dans le ciel qui auront lieu bientôt, peu de temps avant la venue en gloire du Seigneur, quand il reviendra sur les nuées avec les siens, avec nous. Hein. Nous aurons déjà séjourné un temps dans la gloire, quand le Seigneur reviendra sur la terre. Nous l'accompagnerons, nous serons avec lui. Et alors, tous ces signes précéderont pour le monde cette ouverture du ciel et cette vision extraordinaire de Jésus sur un cheval blanc à la tête de toutes les armées célestes, et vous tous, si vous l'avez reçu, sur des chevaux blancs. Et vous voyez cet admirable chevauché du ciel. Nous venons sur la terre avec Jésus qui va établir son règne. Et ceux qui participeront à cet événement extraordinaire sont ceux qui ont accepté maintenant de souffrir avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Vous vous souvenez que la seule monture sur laquelle on a pu voir Jésus quand il était sur la terre, lors de sa venue dans l'humiliation, c'était quoi? Un âne. Et l'âneau est la monture royale en temps de paix, tandis que le cheval est la monture royale en temps de guerre. Eh bien, quand le Seigneur sortira du ciel, ce sera pour en finir avec les armées terrestres, et il anéantira toutes ces puissances qui auront été réunies dans cette grande plaine que certains ont vue parmi vous, puisqu'on est allé en Israël. Eh bien, il anéantira ces armées. C'est une armée du ciel qui viendra pour anéantir les armées de la terre. Et nous serons avec le Seigneur dans des corps glorieux, parce que avant de revenir en gloire, il veut nous prendre avec lui, puisque nous sommes membres de son corps. Quand le Seigneur viendra, il viendra dans sa totalité, tête et corps. C'est pourquoi nous faisons partie du Christ. Nous ne faisons pas partie de quelque chose. Nous faisons partie de qui ? Du Christ. Nous faisons partie de quelqu'un. C'est ce que je voudrais que vous ayez pu comprendre. Vous n'êtes pas membre d'une communauté seulement. Vous êtes membre d'un corps. Et ce corps, c'est le corps du Christ. Alors, souvenez-vous toujours de cela. Vous êtes membre du corps du Christ. Nous faisons partie de quelqu'un, non pas de quelque chose, non pas d'une organisation, d'une secte. Non, nous faisons partie du Christ. Et tous ceux qui aiment le Seigneur, qu'ils soient dans le catholicisme ou dans le protestantisme ou dans une congrégation quelconque, mais s'ils appartiennent au Seigneur dans leur cœur, eh bien, ils sont unis au Christ et nous sommes unis à eux. C'est pourquoi notre amour doit aussi leur être manifesté. Que le Seigneur nous parle et que nous ne soyons pas de ceux qui divisent le corps du Christ. Et alors, le Saint-Esprit, donc, est venu le jour de la Pentecôte pour habiter dans les croyants. Et par le Saint-Esprit, cette bonne nouvelle, qu'est l'Évangile, a pu passer en combien d'années de la capitale juive à la capitale du monde? Je vous l'ai dit en passant, une trentaine d'années, en l'espace d'environ 35 ans, l'Évangile qui avait été annoncé à Jérusalem se trouvait à Rome, en ayant passé par toutes ces grandes villes que nous avons vues, par Athènes, la capitale de la sagesse humaine antique, et puis par Corinthe, la capitale de la luxure, par Éphèse, une des capitales du commerce, et maintenant, c'était à Rome, la capitale du monde. L'Évangile allait être amené à Rome. Et l'apôtre Paul lui-même pourrait aussi y prêcher. Mais tout cela était l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi on a pu dire que les actes des apôtres, on pourrait les appeler les actes du Saint-Esprit. Ou les actes du Seigneur lui-même, puisque les apôtres, les instruments de Dieu, disaient toujours ce que Dieu avait fait avec eux. C'est pas eux qui avaient fait des choses pour Dieu, c'était Dieu qui avait fait quelque chose avec eux. Et c'est très important de savoir, est-ce que Dieu peut faire quelque chose avec nous? Moi, je peux rien faire pour lui. Mais si je me livre à lui, lui peut me saisir, me donner une force que je n'ai pas naturellement, et c'est lui qui agit et qui opère. Donc, il n'y a aucune gloire pour moi, mais toute la gloire est pour le Seigneur. Tout ce qui nous est demandé à nous, c'est de nous abandonner, c'est de lui laisser vraiment la direction de notre vie. Alors, dans ce que nous avons lu, nous avons appris quel ministère le Seigneur avait confié spécialement à l'apôtre Paul, qui était l'instrument de Dieu. Et pourtant, vous vous souvenez de ce qu'il était avant sa conversion. Mais ce qu'il est devenu après sa conversion, il s'est laissé faire par le Seigneur et il a été un instrument béni. Et tous ces chapitres du deuxième camp nous ont fait pénétrer dans le ministère de Paul. Tandis que dans le premier camp, nous avons été occupés aussi, plus particulièrement, du ministère de l'apôtre Pierre. Et alors, hier, nous avons vu Paul prisonnier où? Dans quelle ville? À Césarée. Vous avez vos Bibles, j'espère. Où il est resté combien de temps? 2 ans. Et il a comparu, nous l'avons vu hier, devant le nouveau gouverneur, Festus, qui était accompagné du roi Agrippa et de la reine Bérénice, qui était la sœur du roi, d'Agrippa. Et Paul a eu cette occasion extraordinaire de parler, de témoigner devant tout ce qu'il y avait de plus important dans la ville de Césarée et qui entourait Agrippa, Bérénice et le gouverneur Festus. Et là, nous avons vu que Paul, quand on lui a demandé de parler, il a raconté sa conversion. Et je voudrais bien que vous vous pénétriez de cela en vue de votre préparation personnelle pour ce soir. Parce que ce soir, nous vous l'avons dit, c'est votre réunion. Et en peu de mots, cherchez à partager ce que vous avez pu recevoir ici. Paul avait raconté sa conversion sur le chemin de Damas et comment ensuite il avait appris que Dieu l'avait choisi pour ouvrir les yeux des aveugles. Mais lui, il avait d'abord été aveugle. Et le Seigneur avait ouvert ses yeux, et maintenant, il était choisi pour ouvrir les yeux des aveugles. Lui aussi avait été dominé par la puissance de Satan, et il était choisi pour délivrer ceux qui étaient... Qui étaient quoi? Sous l'emprise de Satan. Et je demande au Seigneur vraiment que... S'il y a quelqu'un ici qui est encore sous l'emprise de Satan, que cette personne soit délivrée, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle et pas d'entrave. Je suis étonné qu'on n'ait pas donné les enfants au... là-bas. C'était pas possible. Parce que vous voyez, ils distraisent. J'aime beaucoup les enfants, moi. Mais ils ne sont pas ici pour distraire les autres. Qui n'écoute plus et qui regarde les enfants. On vous a demandé de mettre, si possible, les enfants avec ceux qui les gardent. Parce que si chacun fait ce qui est bon à ses yeux, eh bien, ça trouble le camp. Je voudrais souligner ici qu'il est intéressant de s'arrêter sur ce que peut être une conversion. Et où peut s'opérer une conversion? Oui, mais dans quel endroit est-ce que Dieu peut opérer une conversion? Est-ce que c'est nécessairement dans une réunion d'évangélisation? N'importe où. Pierre a été converti où? Pierre, non. Pierre a été converti dans un bateau. C'est là qu'il s'est écrié « Je suis un pécheur ». Si vous n'avez pas eu la conviction de péché, vous n'êtes pas converti. Si vous n'avez pas été amené à confesser vos péchés, à réaliser que vous êtes perdu devant Dieu, je ne pense pas que vous soyez converti. Quelqu'un m'a dit qu'il pensait être converti depuis toujours. C'en est plein en enfer, des convertis depuis toujours. Ce n'est pas parce que vous êtes enfant de chrétien que vous êtes sauvé. Pour être sauvé, il faut naître de nouveau. Et pour être amené à naître de nouveau, il faut avoir reconnu qu'on était pécheur. Pour pouvoir dire qu'on est sauvé, il faut d'abord avoir reconnu qu'on était perdu. Parce que si je vous dis, vous savez, j'étais perdu, vous me direz, mais alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Hein? Si je dis, quelqu'un m'a sauvé, on me dira, mais qui vous a sauvé? Et de quoi vous a-t-il sauvé? J'étais en train de me noyer. Je ne savais pas nager. Quelqu'un s'est jeté à l'eau et m'a retiré. Pierre a été converti dans un bateau. Lévi, Matthieu, il a entendu l'appel où? À son bureau. Vous pouvez être converti à votre bureau, dans votre travail. C'est ce qui est arrivé à Matthieu. Le Seigneur passait et il lui a dit, suis-moi. Et quittant tout, Matthieu a suivi le Seigneur de son bureau. Zachée, où est-ce qu'il a entendu l'appel du Seigneur? Sur un arbre. Hein? Vous voyez comme ça peut être différent les conversions. Il était sur un arbre, mais il cherchait le Seigneur. Zachée, descends vite, il faut que j'habite dans ta maison. C'est bon. Et puis, l'Éthiopien, où a-t-il été converti? Dans le désert, mais il était sur quoi? Sur un char, dans son char. Tu peux être converti dans ton char. Eh oui, c'est vrai. Vous voyez, comme c'est riche la parole, ça vous montre beaucoup d'images. Ce n'est pas nécessairement une réunion d'évangélisation où on vous fait avancer, puis tout le monde passe par le même chemin. Le Seigneur a ses chemins, comme il l'entend. Le geôlier de Philippe, où a-t-il été converti? En prison à quelle heure? À minuit ou après minuit. Hein? Et puis, Paul, sur la route de Damas, il est converti sur la route. À quelle heure? Midi. Donc vous voyez, Dieu a toutes les heures. Et si je parle du brigand sur la croix, il est converti où ? Sur la croix. Mais c'est un pécheur. Et comment savons-nous qu'il est converti ? Il a dit, en reprenant son camarade qui insultait Jésus, « Nous, nous sommes ici, justement. » Mais lui, il n'a rien fait qu'il ne se dût faire. Hein. Nous, nous sommes ici, justement, mais lui, il n'a rien fait qu'il ne se dût faire. Et puis, il se tourne vers Jésus et il lui dit, « Souviens-toi de moi quand tu seras, quand tu viendras dans ton règne. » Donc, il a cru que Jésus viendrait, régnerait, pas seulement mourrait, mais qu'il régnerait donc. Il a su que Jésus ne périssait pas. Et Jésus s'est tourné vers lui à la 11e heure et il lui a dit, en vérité, je te le dis, dans 300 ans de purgatoire, non, ça n'existe pas. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, vous voyez, les conversions sont diverses, mais on sait qu'on s'est converti. Et quand on s'est converti, on a une histoire à raconter, peut-être en peu de mots. Moi, je me souviens, c'était en 1931, et c'était à 11h du matin, j'étais dans un petit salon rouge, et j'étais à genoux devant une chaise avec celui qui m'a conduit au Seigneur, et c'est là que j'ai reçu vraiment la grâce de Dieu. Dans mon cœur. Mais je ne savais pas du tout que le lendemain, c'était le dimanche, c'était un samedi que je me suis converti. Bien le lendemain, dimanche, vers 5h, ce prédicateur me dit, Gaston, ce soir, tu rends témoignage. C'était à Lausanne. Oh, devant toute une foule. Moi, je vois encore ma chemise qui allait comme ça. Je suis allé sous un petit sapin. J'avais envie de fuir. Et puis, voilà, non, c'était vrai, mais j'avais jamais parlé comme ça. Et alors, à un moment donné de sa réunion, il a dit, bien voilà, maintenant notre ami Gaston va vous dire ce que Jésus a fait pour lui hier. Et je me vois encore, il y avait des dames, vous savez, des dames de bonne qualité. Hein. Alors, elles avaient des rubans autour du cou encore, je vois ces vieilles dames, très dignes, spirituelles. Hein. C'était Madame Van Berchen, là. Grand-mère de Claire-Lise de Benoît, et toute cette société-là, et Madame de Benoît aussi, qui me faisait un grand sourire. Son mari, le docteur de Benoît, m'a donné la photo de sa femme, dédicacée en me disant, pour vous aider à vous souvenir du sourire qui vous a soutenu pendant votre premier témoignage. C'est les choses qu'on garde, hein. Ma femme vous a donné des reliques qui lui étaient chères, eh bien, j'ai aussi certaines de ces reliques. Mais on s'en souvient, ce sont des choses qui nous marquent. Toutes ces saintes femmes qui ont eu une influence sur ma jeunesse et qui sont devenues des exemples, des modèles, parce qu'elles vivaient pour les autres. Adèle Pella, qui a fait tant de cantiques que vous chantez, mais vous n'avez pas connu, et j'ai eu la grâce de la connaître. Un jour qu'on avait fait une course de montagne, elle nous attendait au débarcadère de Vevey, qui est une petite ville au bord du Léman. Puis elle avait un grand carton de chocolat. Moi, j'avais 13 ans et demi. Alors, elle avait distribué, là, à la halte du bateau, à tous les campeurs de Vennes, un bâton de chocolat. J'en ai encore le goût. Non, mais c'est vrai, c'est ces choses qui vous marquent. Hein. Ce qu'on a vécu dans notre jeunesse, quand on voit des gens qui se sont penchés sur nous pour chercher à nous convaincre que c'était ça la voie du Seigneur. Vous ne vous trompez pas en donnant votre jeune cœur au Seigneur Jésus. Le monde vous ment, le monde essaye de vous avoir. Et une fois qu'il vous aura possédé, eh bien il vous jettera loin comme un citron pressé ou comme une plure de banane pour que quelqu'un d'autre glisse sur votre témoignage. Oh, que le Seigneur vous garde et que vous ayez un jour de beaux souvenirs à raconter à vos enfants ou à vos petits-enfants si le Seigneur n'est pas venu. Mais vous voyez, les conversions, eh bien, c'est pas des conversions à la chaîne. C'est le Seigneur qui pénètre dans une âme. Et alors, si vous avez vraiment rencontré Jésus, vous pouvez raconter votre conversion. Vous pouvez dire en quelques mots ce que le Seigneur a fait pour vous. L'apôtre Paul, nous l'avons vu, il a raconté des faits, ça s'était passé, il pouvait dire le lieu. Certes, je citais Claire-Lise de Benoît, qui à mon âge, et nous étions amis d'enfance, eh bien, elle m'a dit souvent, elle ne peut pas mettre une date à sa conversion, vous ne pouvez pas mettre de date. On est élevé dans une famille chrétienne, alors elle n'a jamais refusé le Seigneur, mais l'eau est montée jusqu'aux chevilles de ses pieds, hein, comme il l'est dit dans Ézéchiel 47. Puis, on continue, on est élevé par des parents chrétiens, l'eau va jusqu'aux genoux, lisez Ézéchiel 47. Et puis ensuite, on avance, l'eau nous va jusqu'aux reins, et finalement, c'est une rivière dans laquelle on nage. Hein. Il y a ce qu'on appelle des conversions progressives. Mais ce qui est vrai, c'est que le Seigneur est dans notre vie. Et ça se voit. On ne peut peut-être pas dire le jour, je ne sais pas le jour, je ne sais pas peut-être le moment précis, mais enfin la grâce m'a porté, et ce que je sais, c'est que j'ai la vie. Hein. Si vous avez la vie, vous le savez. Je ne sais pas comment, mais je peux dire j'ai la vie. Et mieux que tout cela, c'est le monde qui témoigne que vous êtes vraiment au Seigneur, que vous lui appartenez, que vous êtes un membre de son corps. Alors, si vous êtes membre de son corps, vous avez lu l'Évangile, qu'est-ce que Jésus faisait avec ses mains? Qu'est-ce que Jésus faisait avec ses pieds? Qu'est-ce que Jésus faisait avec sa langue? Qu'est-ce que Jésus faisait avec ses yeux? Qu'est-ce que Jésus faisait avec ses oreilles? Qu'est-ce que Jésus faisait de son cœur? Tout était pour les autres. Et tout était au service du Père. Alors, contemplez Jésus et vous saurez comment, comme membre du corps de Christ, vous avez à agir dans le quotidien. Alors, étudiez encore bien ce témoignage de Paul devant Agrippa. Et Agrippa avait été impressionné par ce témoignage, puisqu'il avait dit « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Félix aussi avait été intéressé par le témoignage de Paul, mais il n'a pas pris de décision, comme Agrippa, on ne sait pas s'il a pris une décision. Et alors, Paul a été envoyé à Rome. C'est là que nous en étions. Hein? Et c'est notre sujet d'aujourd'hui, acte 27, qui nous montre le départ de Paul de Césarée pour Rome. Parce que Paul en avait appelé à César. Alors, pour paraître devant le tribunal de César, il fallait aller où? À Rome. Vous voulez changer de place, changer de position? Alors nous lisons comme d'habitude. Lorsqu'il fut... Chapitre 27, vous avez vos Bibles? Alors suivez pour que vous en soyez imprégnés. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie... Pourquoi l'Italie? Parce que Rome est en Italie. Hein? On remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Donc, celui qui allait être le chef de cette expédition, amenant les prisonniers à Rome, c'était un centenier, c'était le titre qu'on donnait. C'était un homme, qu'est-ce que ça veut dire un centenier? Un homme qui commandait combien de personnes? 100 hommes, hein? Il commandait 100 hommes. Alors, il y avait donc 100 hommes avec eux. De la cohorte d'Auguste, qui était un empereur, était nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramyte. C'est une ville d'Adramyte, c'est une ville de la côte de Mysie, dans l'Asie mineure. Et ce navire devait côtoyer l'Asie. Et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, c'était un des compagnons de Paul, qui était un Macédonien d'où ? De Thessalonique. Vous vous souvenez que Paul avait été combien de temps à Thessalonique ? 3 semaines, hein ? Mais il y avait eu des conversions. Et non pas seulement des conversions, mais des gens qui s'étaient consacrés au service de Dieu, dont un Aristarque. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Alors, on peut dire que, jusqu'à présent, le diable avait employé pour empêcher Paul, au fond, de servir Dieu, d'accomplir son ministère, il avait employé des hommes. Puis il n'a pas réussi. Malgré tout ce qu'on a fait contre Paul, Paul a continué d'annoncer l'évangile. Mais il doit aller à Rome. Mais c'est dangereux que Paul soit à Rome, parce qu'il a fait déjà un travail formidable à Dieu. Alors, le diable, qui a une puissance réel, cherche à contrarier par les éléments déchaînés le voyage de Paul. Il ne faut pas que Paul arrive à Rome. Alors vous voyez dans le livre de Job que nous avons étudié ici, hein, que Dieu lui permet certaines choses. Mais pour montrer que c'est quand même lui qui domine. Job a été éprouvé. Le feu du ciel est tombé sur ses brebis. Il y a eu toute espèce d'épreuve que Job a eue, et c'était Satan qui menait le bal contre Job. Eh bien là, on peut voir aussi Satan qui n'a pas pu empêcher le témoignage de Paul, eh bien il emploie les vents contraires. Verset 5. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. On peut voir tout cela sur la carte. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire, fallait changer de navire, hein, un navire d'Alexandrie, qui allait en Italie, nous y fit monter. Hein. Ce n'est pas changement d'avion, c'est changement de navire. Hein. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide. Cnide, c'est une ville d'Asie mineure qui est sur un promontoire du même nom. Et là, il est dit que le vent ne nous permit pas d'aborder. Vous voyez que tout est contraire. Hein? Alors, nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, on sait bien où est la Crète, hein? Du côté de Salmone. C'est un promontoire qui est à l'est de l'île de Crète et qu'on peut très bien voir quand on passe en avion. Nous côtoyâmes avec peine, et nous la côtoyâmes avec peine, donc cette île de Crète, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Et l'époque même du jeûne était déjà passée. Ce jeûne était une fête qui correspondait au jour d'expiation, qui était célébré le 10e jour du 7e mois, à la fin de septembre, vers l'équinoxe d'automne. Alors, on était bien avancé déjà. Et je vous dirai ici que cette navigation peut être comparé à ce qui arrive à la vie chrétienne. C'est vrai, hein? Vous avez commencé avec le Seigneur. Et vous avez pris votre départ. Et qu'est-ce qui arrive? Tant que c'est le vent doux du midi, ça va. Vous allez doucement, vous avancez doucement. Mais dès que le vent devient contraire, dès que vous avez quelques épreuves, eh bien, ça devient pénible, et on avance lentement, comme il l'est dit. Hein. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes, verset 7, lentement. Ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide. où le vent ne nous permit pas d'aborder. On pensait pouvoir faire quelque chose et on n'a pas pu le réaliser. Alors, on risque de se décourager. Et notre vie, eh bien, verset 8, nous côtoyâmes avec peine la Crète et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport. Puis tout à coup, on s'aperçoit que ça ne va pas. Verset 10. Alors Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Ça, c'est une révélation que Paul a eue. Hein. Est-ce qu'on va l'écouter? Voilà, n'est-ce pas? Dieu parle une fois, deux fois. Mais on préfère écouter qui? L'homme. Hein. Le centenier écouta qui? Le pilote. Il se dit, oh Paul, hein, qu'est-ce qu'il en sait? C'est pas un pilote. Tandis que le pilote, on peut être sûr. C'est son métier. Mais dans la vie chrétienne, c'est pas cela qui nous conduit. Hein. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Pourquoi? Parce que le patron, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut gagner de l'argent avec son navire. Il faut que son navire travaille, il ne faut pas qu'il reste là. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, parce qu'il était question d'hiverner, la plupart furent d'avis de quitter ce port pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler. Alors tout d'un coup, n'est-ce pas, il y a comme un encouragement, hein, le vent, la météo est favorable, puis on se dit, bien, on peut y aller. Mais est-ce que c'est ça qui doit nous conduire? Vous ne devez pas être conduit par la force du vent, mais par l'esprit. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître, ah, c'est cela, nos vies, on se croit les maîtres. On est sauvé et on pense qu'on peut faire ce que l'on veut. Mais non, c'est pas vrai. Ils se croient maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais voilà, on est parti, malgré le conseil de Paul, verset 14. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euraquilion. Se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Est-ce que ce n'est pas souvent ce qui arrive à nos vies? Tout d'un coup, alors qu'on était au Seigneur, on se laisse entraîner par certaines circonstances et puis nous ne pouvons pas lutter. C'est trop fort pour nous. On s'est mis dans une situation où on ne peut pas lutter. Il y a des gens qui disent, mais moi, je ne veux pas tomber dans la tentation. Mais on court vers la tentation. Puis on croit qu'on va dire stop là. Hein? Et puis, on va plus loin. Il n'y a pas de miracle. Si vous flattez la chair vous dominera. Il faut que la chair soit crucifiée. Vous avez indiqué ce cantique, attaché à la croix pour moi. Hein? Mais il ne faut pas seulement que ce soit le Seigneur qui soit attaché à la croix. Il faut que vous y soyez avec lui, quant à votre chair. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Qu'est-ce qui arrive à nos vies? On se laisse aller à la dérive. C'est vrai ou c'est faux? Vous voyez comme l'Écriture, justement, est là pour nous donner une vision de ce qui arrive. Hein. C'est pas simplement l'histoire d'un naufrage, c'est l'histoire de notre vie, qui risque de faire naufrage si nous ne vivons pas dans la dépendance du Seigneur. Verset 16. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe, même la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire dans la crainte de tomber sur la Syrte. La Syrte, c'est deux célèbres bancs de sable sur la côte septentrionale de l'Afrique. Alors, s'il tombait sur un banc de sable, qu'est-ce qui arrivait au navire? C'est fini, hein? Alors on abaissa les voiles. Vous voyez, si Josaphat avait été là, il aurait abaissé les voiles aussi. Parce que, sans ça, c'était la catastrophe. Mais vous voyez, on est en plein dans ce que nous vivons. Vous avez des voiles, vous savez ce que c'est, et à un moment donné, il faut abaisser les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, ça arrive aussi dans la vie spirituelle. Le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Pourquoi est-ce qu'on jette la cargaison à la mer? Pour alléger le navire. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Donc, c'était vraiment la fin. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Vous connaissez ça dans la vie spirituelle? Quand il n'y a plus de soleil, plus d'étoiles, on est dans la nuit. On se demande pourquoi. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Et c'est là que bien souvent les gens se suicident. Parce qu'il n'y a plus d'espérance. Il leur semble qu'il n'y a plus d'espérance. Verset 21. Quelle est l'attitude de Paul au sein de tout ce drame? On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » Il leur dit pas, « Ben c'est bien fait. Vous m'avez pas écouté. J'avais raison. » Oui, il avait raison. Mais il est plein d'amour. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. N'est-ce pas merveilleux? Voilà ce que vous avez toujours à faire. Je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Ben, il vaut mieux vivre, même si le navire est détruit. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens? À qui est-ce qu'appartenait Paul? À Dieu. Et c'est ça. Est-ce que vous appartenez à Dieu? Un ange de Dieu à qui j'appartiens. On a vu ce matin que les anges sont des esprits administrateurs employés envers ceux qui doivent hériter du salut. Et l'ange que Jean à Patmos voulait adorer lui a dit, non, je suis ton compagnon de service et de tous ceux qui ont le quoi? Le témoignage de qui? De Jésus. Ceux qui ont le témoignage de Jésus, et j'espère quand même que cela va vous rester, notre thème c'était, vous serez mes témoins. Eh bien, être témoin, c'est avoir le témoignage de Jésus en nous. Et il y a l'ange, il est invisible, mais je sais qu'il existe. Il m'a gardé dans bien des circonstances. Il m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Vous voyez, c'est une confirmation de ce que lui avait dit le Seigneur à Jérusalem. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? À cause de la fidélité de Paul, tous les hommes qui sont avec Paul, même les païens, seront sauvés. À cause de votre fidélité, si vous êtes fidèle au Seigneur, vous pouvez être l'instrument de salut pour un grand nombre. Tandis que l'infidélité d'un serviteur de Dieu met en péril qui? Tous les matelots païens. Quel est cet homme? Infidèle, dans un bateau. Jonas. Jonas, au lieu de faire la volonté de Dieu, il a tourné le dos à Dieu, il a voulu fuir l'ordre de Dieu, et il a mis en péril tous les païens matelots de ce bateau. Alors que lui, il est allé s'endormir au fond de la cale. Eh bien, Paul, parce que lui était fidèle, il a pu mettre au salut, amener au salut physique alors, tous ceux qui étaient avec lui. Je t'ai donné tous ceux qui étaient avec, tous ceux qui sont avec toi. C'est quel verset? Verset 24, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc, Paul devient un moyen de salut. Verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Dieu ne peut pas nous mentir. Sa parole est la vérité. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils jetèrent de nouveau la sonde et ils trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de se heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poutre et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul, qui comprend bien la manœuvre, dit aux centeniers et aux soldats, perd les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. » Donc vous voyez, quelquefois il faut manger. C'est nécessaire pour notre salut physique. Et aucun de vos cheveux ne se perdra. C'est bien ce que Jésus avait dit. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ayant ainsi parlé, alors vous voyez, on exhorte les autres à manger, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire. Il faut être un modèle, il faut être un exemple. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, pourquoi est-ce qu'on rend grâce avant de manger? Parce que le Seigneur nous a enseigné ainsi, puis on voit que les apôtres faisaient ainsi. Ayant rendu grâce devant tous, donc il n'a pas honte de prier, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Vous voyez, si vous êtes un exemple, vous entraînerez les autres. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis, ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Vous demanderez à Josaphat de vous montrer ce qu'est la poupe, ce qu'est la proue du voilier, pour que vous puissiez mieux comprendre tout ce qui est dit là. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers. Pourquoi? De peur que quelqu'un n'échappe à la nage. Mais le centenier, parce qu'ils tuaient les prisonniers, qui est-ce qu'ils allaient tuer? Ils allaient tuer Paul. Alors vous voyez que le centenier avait quand même un cœur pour Paul, mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Vous voyez, ici dans les camps, souvent, on a eu, puis dans d'autres camps, des jeunes qui nous disaient à quoi ça sert de nager. Moi, j'aime pas l'eau. Mais ça peut te servir un jour. Puis alors, si vous restez simplement là sur le bord de l'eau, on a demandé une fois à quelqu'un, mais pourquoi est-ce que tu restes là? J'attends de savoir nager. N'est-ce pas? Et voilà, alors c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nager? Il faut se jeter à l'eau. C'est une fois dans l'eau que vous commencerez à nager. Il faut faire le geste, il faut faire le pas.
Si vous ne faites pas le pas pour le Seigneur, vous ne marcherez jamais avec lui. Il faut faire le premier pas. Sans ça, il n'y a pas de marche avec le Seigneur. Si tu ne fais pas le premier pas, et le premier pas, c'est se donner au Seigneur. Sinon, il n'y a pas de marche avec lui. Si tu ne te jettes pas à l'eau, tu ne sauras jamais nager. Alors, ceux qui savent nager peuvent se jeter les premiers pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches. Ça fait une espèce de radeau. Hein. On se tient à une planche ou au débris du navire. Et ainsi tous, comme Paul l'avait dit, ils parvinrent à terre, sains et saufs. Alors nous arrivons maintenant au dernier chapitre. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. J'ai à Jérusalem la sœur directrice de la terminale des cancers, l'hôpital Saint-Louis de France à Jérusalem, qui est de Malte. C'est une chère amie, très chère amie, que je vois régulièrement quand je vais à Jérusalem. Et elle me donne l'occasion de parler à toutes les infirmières qui soignent ces cancéreux. Elle vient de Malte, puis il y en a deux autres à Beersheba, que je visite aussi régulièrement, et qui sont aussi de Malte. Elles se sont données au Seigneur pour travailler là-bas. Alors, on connaît l'île de Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Qu'est-ce que ça veut dire? D'habitude, les barbares, ils étaient barbares. Mais eux, là, ils ont été bienveillants. Pourquoi? Mais parce que c'est Dieu qui tient le cœur des hommes dans sa main. Ils nous recueillirent. Parce qu'ils auraient pu tous les tuer, puis les voler. Enfin, ce qui leur restait, il ne restait pas grand-chose. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé, voyez là, comme ça, parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Évidemment, l'île de Malte est sous le contrôle des Anglais. Hein. Alors, comme il pleut souvent à Londres, il pleuvait à Malte. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur, et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de là. » Mais Paul allait être sauvé deux fois. Hein. Ça allait les impressionner, et Dieu a permis à la vipère de se manifester pour que ce soit tout un témoignage. Vous voyez, rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Qui dit une chose, elle arrive si Dieu ne l'a pas commandé. La vipère est au service du Seigneur. Pour ouvrir, au fond, un témoignage. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Alors que d'habitude, moi je me souviens qu'étant enfant, nos parents nous disaient quand on allait à la forêt, si on était mordu par une vipère, qu'est-ce qu'il fallait faire? Si on avait un canif, il fallait ouvrir et puis sucer, cracher, pour enlever le venin. Parce que si on laisse le venin, on meurt. Hein? Alors on savait ça à tout petit enfant, parce qu'on avait peur des vipères, on en avait chez nous. Alors il fallait faire très attention. Ou bien si un petit frère qu'on pouvait avoir était mordu par la vipère, il fallait que le grand frère fasse le travail. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Verset 6. C'est bien ce que Jésus avait dit, hein, quand vous serez mordu par les serpents, vous ne succomberez pas. Verset 6. Ces gens s'attendaient à voir enflé Paul ou tomber mort subitement. Mais après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait rien, ils changèrent d'avis, et au lieu de dire que c'était un meurtrier, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un dieu, voilà, c'est toujours ça. On pense qu'un homme est un meurtrier, puis après on change d'avis, puis c'est un dieu. Ou bien on l'a pris pour un dieu, puis après on le prend pour un homme. Et c'est ce qu'on avait fait avec Paul à Lystre. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île. Il y a toujours un principal, hein, nommé Publius,
qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. C'est beau, l'hospitalité. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Ça existait aussi de ce temps-là. Alors on avait invité Paul, non pas pour qu'il guérisse quelqu'un, Paul ne savait pas qu'il y avait quelqu'un de malade là, mais Publius a exercé l'hospitalité et il en a eu tout de suite une récompense. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. C'est une guérison vraie, celle-là. Les miracles du Seigneur, ils ont un effet immédiat. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui prétendent faire des miracles. S'il y a miracle, c'est quelque chose qui se fait immédiatement. C'est visible. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent, il n'est pas dit améliorés, hein, ils furent guéris. On nous rendit les grands honneurs. Et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Et c'est beau, hein? Les cœurs s'ouvrent. Mais vous voyez, c'est toutes des actes, c'est des actions, hein? c'est pas de la théorie, c'est du quotidien. Verset 11. Alors, on arrive à l'arrivée de Paul à Rome. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie, qui est en Égypte, qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Comme votre bateau, là, s'appelle Anne. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio, en Calabre, et le vent du midi, s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzolles, c'est près de Naples, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au Forum d'Appius et aux 3 tavernes. C'est encore des lieux qu'on peut visiter aujourd'hui. Les frères qui avaient entendu parler de nous, Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Quand on voit les frères qui nous aiment, eh bien, au travers de toutes nos épreuves, cela nous encourage. Bien que quand nous nous retrouvons, quand nous nous voyons, que nous puissions nous encourager les uns les autres. Hein. Et qu'on ne dise pas, j'ai rencontré ce frère, ça m'a découragé. Mais j'ai rencontré ce frère, j'ai rencontré cette sœur et j'ai repris courage. Soyez des chrétiens qui donnent du courage aux autres et non pas des gens qui se plaignent tout le temps et qui ne parlent que de leur misère, comme si Dieu n'était pas avec eux et les avait abandonnés. Verset 16. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans son domicile particulier avec un soldat qui le gardait. Au lieu de le mettre en prison, on lui a permis d'avoir un appartement, mais évidemment, il était gardé par un soldat. C'était une résidence surveillée. Hein? Voilà. Verset 17. Qu'est-ce qu'il a fait? Au bout de 3 jours, vous voyez, on nous dit souvent que à cause du décalage horaire, quand on voyage en avion, il ne faudrait pas prêcher ou travailler avant 3 jours. Mais des fois, on ne peut pas. Mais là, c'est quand même une indication. Il faudrait pouvoir avoir un petit temps de repos pour se ressaisir. En tout cas, dans les affaires, les gens qui vont pour faire des affaires, on ne leur permet pas de signer un contrat quand ils arrivent. Il faut qu'ils prennent un peu de repos, parce qu'ils ne sont pas tout à fait en état. Alors on leur demande aussi, on leur donne aussi un repos. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré entre les mains des Romains. Vous voyez que, quelle est la pensée de Paul? C'est toujours d'annoncer d'abord le salut à qui? Aux Juifs, premièrement. Alors, arrivé à Rome, il commence par les gens de son peuple, de sa nation, parce que le Seigneur a dit aux Juifs, premièrement. Verset 18, alors il s'explique. « Après m'avoir interrogé, il voulait me relâcher parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. » Il n'est pas venu pour accuser les Juifs. « Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler. » Vous voyez, il veut se mettre à l'aise avec ces Juifs, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Donc il avait la chaîne qu'il attachait aux soldats. Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte, il y en avait à Rome, des chrétiens, rencontre partout de l'opposition. » Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne qui? Jésus. Donc il ne change pas. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Et le résultat? Comment vous a lu la parabole? De quoi hier? Des semeurs, hein? Mais il y en a qui sont persuadés, puis il y en a d'autres. Non, qui repoussent, hein? Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, et d'autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Esaïe, a dit, va vers ce peuple, et dit, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Est-ce qu'il y a un cœur insensible parmi vous ici? Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Le Seigneur voudrait vous guérir. Mais vous, le voulez-vous? Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Puisque vous, les Juifs, vous ne voulez pas du Seigneur, il y en a d'autres qui l'écouteront. Alors c'est peut-être encore une fois notre dernier camp. Nous avons essayé d'être disponibles pour essayer de vous présenter la parole à vous, à vos enfants. Mais si l'on ne veut pas écouter, eh bien, nous n'avons pas une tradition que nous voulons maintenir le camp Mahanaïm. Nous irons où le Seigneur le voudra. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allaient, discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu, et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute liberté et sans obstacle. Dieu lui avait donné ces 2 années. Mais on dira, mais c'est quand même triste, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis que Paul puisse continuer d'annoncer l'Évangile? Pour quelle raison est-ce que Dieu a permis qu'il soit 2 ans en prison? Comment? Pour écrire, parce que sans ça on n'aurait pas les lettres de Paul qui écrit de sa prison, quelles lettres? Aux Philippiens, aux Éphésiens et aux Colossiens, ce qu'on appelle les épîtres de la captivité. Les épîtres de la captivité, c'est les lettres qu'il a écrite pendant qu'il était en prison. Et c'est nous qui bénéficions de cet enseignement de Paul. Et de prison, il disait, je suis prisonnier, je suis lié de chaînes. Toutefois, la parole n'est pas liée. La parole n'est pas liée. Paul était lié, mais la parole n'était pas liée. Et elle s'est répandue, et nous en sommes, nous aussi, les bénéficiaires. Alors, nous arrivons donc au terme de ce livre des Actes des Apôtres, ou des Actes du Saint-Esprit. Et vous voyez, la fin de la vie de Paul ici ne nous est pas donnée. Il faut lire dans les Épîtres, la seconde à Timothée, pour savoir que Paul a été condamné à mort et qu'il allait être décapité à un endroit qui s'appelle à Rome Saint-Paul hors des murs, où l'on a construit une basilique, et c'est là qu'il s'est mis à genoux et que le bourreau lui a tranché la tête. Et il disait qu'il servait déjà de libation. Il savait qu'il allait mourir. Mais il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie, la couronne de justice est devant moi. Il l'a promis, non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment son apparition. Alors, un dernier mot que je vous laisse sur le cœur, c'est pas de moi, c'est du Seigneur. Et lui-même disait dans le chapitre 10 de Matthieu, et ça vous prépare aussi pour ce soir, verset 32e du chapitre 10. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi. Est-ce que vous osez ici vous déclarer publiquement pour le Seigneur? Est-ce que vous oseriez ce soir vous déclarer dans la réunion de témoignage publiquement pour le Seigneur? En ce 14 juillet 1989. Écoutez bien. Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui quand? Devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, si nous ne voulons pas confesser le Seigneur, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Vous serez mes témoins. Dieu notre Père, nous te remercions de nous avoir permis d'arriver à la fin de ce livre qui a parlé à notre conscience et à notre cœur. Et maintenant, nous nous recommandons à ta grâce et à la puissance de ton esprit que tu opères en chacune de nos vies, et qu'en quittant ce camp, nous puissions être vraiment là où tu nous enverras, tes témoins, ayant un témoignage tout à ta gloire. Amen.